samedi 14 décembre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre revue de l'actualité de la semaine, grâce bien sûr au reportage de la rédaction. Comme d'habitude, nos étapes seront nombreuses, ainsi nous partirons aujourd'hui pour les États-Unis, le Niger, l'Algérie et la Russie notamment.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Cette semaine, nous allons également parler des femmes journalistes en France, dont notre invitée Marie-Ève Terranti nous fait découvrir l'histoire dans un livre très riche. Voici donc un nouveau numéro d'une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur votre moteur de recherche, sur le site de la radio, www.rfi.fr, l'application RFI 100% radio, et à la page Une semaine d'actualité. Et avant de commencer notre voyage, un grand merci à France Bleu Touraine, à Tours, qui assure cette émission en duplex. Bonjour Marie-Ève Terranti.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Vous êtes professeur de littérature française à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Vous êtes spécialiste de la presse et vous nous proposez un livre très complet, passionnant, qui s'intitule « Femmes de presse, femmes de lettres » de Delphine de Girardin à Florence Obna. Livre publié au CNRS Éditions. C'est en quelque sorte l'histoire des pionnières du journalisme, non ? En France,
oui.
En tout cas.
Oui, c'est ça. Alors, il faut bien comprendre comment je suis arrivée à cette histoire des femmes journalistes. Je ne suis pas une militante, je ne viens pas non plus des études de genre, mais je suis une historienne de la presse. Et donc, c'est en observant les corpus de presse que je me suis rendu compte qu'un certain nombre de femmes journalistes avaient inventé des pratiques journalistiques, des dispositifs, d'ailleurs ensuite repris par les hommes, et qu'elles avaient en fait disparu de l'histoire de la presse. Et donc, c'est cette histoire que j'ai voulu faire, en fait, une autre histoire de la presse.
Vous écrivez, Marie-Ève, dans votre livre, dès le départ d'ailleurs, que l'histoire de la presse a effacé le nom des femmes journalistes.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une histoire de la presse qui a été essentiellement faite par des hommes, de manière un peu traditionnelle. Et elles avaient le double tort d'être journalistes. Les journalistes sont souvent absents de l'histoire et aussi d'être femmes. Et donc, elles ont été complètement effacées. Hein. Très peu de traces d'André Violis, qui est pourtant, à son époque, l'exacte équivalente d'Albert Londres. Très peu de traces aussi de ces grandes écrivaines qui ont été journalistes, comme George Sand ou Colette. Aucune trace de Titaïna, qui, c'est vrai, a eu le tort d'être collaboratrice, en plus d'être femme et journaliste.
Et dans ce livre, vous démontrez très 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 bien, Marie-Ève Terranti, la manière dont ces femmes pionnières dans le journalisme en France ont procédé pour arriver à faire leur travail, tout simplement.
Oui, c'est ça. Elles vivaient dans un système de contraintes très fort. Hein. Elles voulaient écrire dans le journal, parfois écrire de la politique, et ceci leur était impossible. Il faut quand même expliquer le système de contraintes. Elles étaient socialisées, évidemment, de manière différente, éduquées de manière différente. Jusqu'à la loi Bérard de 1924, les programmes scolaires sont différents. Le cadre légal pour elles aussi était différent. Le code Napoléon entre en vigueur en 1804 est extrêmement restrictif. Elles doivent demander l'autorisation de leur mari pour exercer un emploi. Et surtout, jusqu'en 1944, elles n'ont pas le droit de vote. Elles n'ont pas le même accès aux espaces publics. Et donc, le livre raconte comment elles sont devenues journalistes avec ce système de contraintes, comment elles ont inventé des réponses successives autour de pratiques, de postures, de poétiques originales qui se sont succédées dans l'histoire, aucune réponse ne venant effacer complètement une autre. Si bien que lorsque j'arrête le livre en 1944, il existe vraiment une grande diversité de manières d'être femme journaliste.
Sept jours dans le monde.
Commençons notre voyage, Marie-Ève Terranti, et partons pour les États-Unis, où les démocrates ont finalement retenu deux chefs d'accusation contre Donald Trump avant le lancement d'une procédure de destitution d'impeachment à San Francisco. Éric De Salve.
Ce n'est pas un jour de fête, nous ressentons tous le fardeau de l'histoire, dit une élue démocrate sur la très trumpiste chaîne d'information Fox News, en rappelant que jusqu'ici, seuls deux présidents américains ont fait l'objet d'un procès en destitution. La réaction entend résumer l'humeur de l'opposition. Quelques minutes après l'annonce des deux chefs d'accusation contre Donald Trump par Jerry Nadler, le chef des démocrates de la commission juridique de la Chambre.
It is an impeachable offense Quand le président utilise sa fonction pour obtenir illégalement un bénéfice personnel, c'est un délit passible de destitution. Or, c'est précisément ce qu'a fait le président Trump quand il a sollicité et fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle intervienne dans notre élection présidentielle de 2020. En faisant cela, il a porté atteinte à la sécurité nationale, il a sapé l'intégrité des élections et il a violé son serment devant le peuple américain.
Le deuxième chef d'accusation est celui d'entrave au travail d'enquête du Congrès. Ridicule, folie pure, chasse aux sorcières, tempête sur Twitter, Donald Trump, toujours soutenu par les Républicains, Kevin McCarthy est leur leader à la Chambre.
Les démocrates n'arrivent toujours pas à accepter que le président a gagné l'élection et qu'ils l'ont perdu.
Et une fois devant le Sénat où les Républicains sont majoritaires, autoritaire et fidèle à Donald Trump, l'impeachment a de faibles chances d'aboutir.
Curieuse situation que celle qu'a connue Aung San Suu Kyi cette semaine, la prix Nobel de la paix, placée jadis en résidence surveillée 15 ans durant par les militaires, s'est faite leur avocate à la Cour internationale de justice de La Haye. C'est la conséquence, on le sait, d'une plainte formulée par la Gambie. Non, dit-elle, ils n'ont pas commis de génocide contre les Rohingyas en 2016 et 2017. Vincent Souriau a suivi pour nous cette audition.
D'après Aung San Suu Kyi, le recours déposé par la Gambie dresse un tableau trompeur et incomplet de la situation. Oui, dit-elle, la Birmanie est profondément attachée à la justice internationale, mais avant tout, c'est aux tribunaux birmans, aux cours martiales, aux instances nationales de travailler sur les possibles crimes commis dans le pays. On ne peut pas exclure que l'armée birmane ait fait un usage disproportionné de la force, concède-t-elle, mais l'intention génocidaire ne peut pas être la seule hypothèse. Autrement dit, il y a peut-être eu des crimes de guerre, peut-être un nettoyage ethnique, mais pas la volonté d'exterminer une population déterminée. Dernier point, nous avons pris des mesures, peut-être pas assez, dit-elle, mais nous avons conclu un accord de rapatriement avec le Bangladesh pour que les déplacés reviennent sur le territoire birman. Comment peut-on parler de génocide dans ces conditions? Demande Aung San Suu Kyi, qui aura bien pris soin de ne jamais prononcer le terme Rohingya. Pour elle, les exilés sont des musulmans, ni plus ni moins. Là encore, pas question de reconnaître la spécificité, l'existence d'une ethnie Rohingya qui serait visée en tant que telle par la Birmanie.
L'actualité internationale européenne, c'est bien sûr aussi le résultat des élections législatives en Grande-Bretagne. Jeudi, victoire confortable des conservateurs de Boris Johnson, ce qui devrait conduire logiquement le pays à quitter l'Union européenne le 31 janvier prochain. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Ève Terranti, spécialiste de la presse, historienne de la presse, professeure de littérature également, qui vient d'écrire « Femme de presse, femme de lettres ». Nous allons en quelque sorte parcourir une galerie de portraits, de journaliste avec vous maintenant dans cette émission, mais je crois que vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu à propos des États-Unis.
Oui, sans doute. On peut se demander si les démocrates finalement ont eu raison de lancer la procédure d'impeachment contre Trump. On sait qu'ils ont longuement hésité, qu'ils se sont finalement lancés dans le dernier virage du mandat. Alors, c'est pas que les preuves ne soient pas accablantes, hein. Ils peuvent maintenant statuer, ils ont le choix entre la censure, le blâme qui sans doute ne leur paraîtra pas assez, et la destitution. Il est probable qu'ils iront à la destitution en sachant que le Sénat derrière l'annulera. Alors sans doute qu'ils espèrent que cela va avoir une influence sur les électeurs au moment du scrutin, mais on peut aussi craindre d'avoir finalement un président des États-Unis destitué par la Chambre des représentants et réélu finalement par le scrutin pour un deuxième mandat. Et ça non plus, c'est jamais arrivé. On peut se demander si c'est bon pour la démocratie américaine.
Alors tout cela doit se décider côté démocrate ces jours prochains. On en parle évidemment dans nos journaux. Nous allons continuer à parler des femmes journalistes. D'ailleurs, puisqu'on vient de parler des États-Unis, il faut dire un mot, par exemple, d'une grande journaliste américaine de l'époque dont vous traitez 19e siècle, Nellie Bly, qui n'est pas évidemment dans votre livre, puisque vous parlez des journalistes françaises, mais qui a été aussi un modèle de femme journaliste.
Oui, alors elle a notamment inventé un processus qui a ensuite été beaucoup pratiqué par d'autres femmes journalistes. C'est le reportage d'identification, d'immersion. Elle s'est fait interner effectivement dans un asile de fous pour témoigner des conditions absolument insensées subies par les malades. Elle a même eu du mal en fait ensuite à en sortir, hein, puisqu'elle était entrée comme folle, et qu'ensuite les médecins n'ont pas voulu la faire sortir. Il a fallu effectivement l'intervention du directeur du journal américain. Elle est devenue célèbre ensuite, hein, effectivement. Elle a aussi fait le tour du monde dans les pas de Jules Verne. moderne, un tour du monde en 80 jours, et elle constitue en fait effectivement un modèle pour beaucoup de femmes journalistes en France dans l'entre-deux-guerres.
Alors dans votre livre, vous classez en quelque sorte, même si c'est plus compliqué que cela, les journalistes, les pionnières, je reprends ce terme, journalistes en France au 19e siècle et même au 20e siècle, en plusieurs parties, il y a les frondeuses, les aventurières, les grands reporters. Je voudrais que nous parlions de quelques-unes d'entre elles. Il me plaît de citer leurs noms tout au long de cette émission parce que beaucoup d'entre elles, vous le disiez tout à l'heure, Marie-Ève, ont disparu de la mémoire. Alors celle dont je voudrais parler tout de suite, il s'agit d'Alexandra David-Nel, la fameuse journaliste qui est entrée la première dans la cité interdite de Lhassa, je crois que c'était en 1924.
Oui, c'est ça. Alors, dans mon livre, effectivement, je les classe. Hein. J'ai une forme de répartition qui est aussi une répartition chronologique. Pour moi, Alexandra David-Nel, elle fait partie des exploratrices aventurières qui ont, et on les trouve, celles-là, depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, hein. Elles ont l'idéal de l'aventure et elles vont fuir à la civilisation. Parmi elles, on trouve effectivement de grandes journalistes, Alexandra David-Nel, Isabelle Eberhardt ou Jeanne Dieulafoy, elles ont toutes comme point commun de s'être immergées complètement dans les sociétés qu'elles exploraient, comme des ethnologues. Ce ne sont pas des reporters, elles ne passent pas vite, elles s'arrêtent. Et en fait, d'avoir utilisé la presse pour financer ces expéditions le plus souvent. Disons qu'elles sont aventurières ou exploratrices avant d'être journalistes. Et parmi elles, effectivement, Alexandra David-Nel, c'est une orientaliste, hein, largement autodidacte, qui a vécu plus de 100 ans, en fait, et qui a passé 14 ans de sa vie à arpenter le Tibet. Un fait la rend mondialement célèbre, son entrée et son séjour dans la cité interdite de Lhassa. Elle y est arrivée en faisant 2000 km à pied, dans les montagnes, déguisée en mendiante misérable. Et à partir de 1925, elle publie dans Le Matin un feuilleton à suspense, hein, l'exact équivalent des romans feuilletons anciens, en une, donc ça c'est important parce que c'est rare, une femme journaliste en une, sous un titre un peu provocateur, un peu sensationnaliste aussi, une Parisienne au Tibet, c'est pas tout à fait exact parce qu'elle est pas vraiment parisienne, mais enfin bon, c'est un peu pour attirer le chaland, et ce reportage qui s'étire sur de longs mois l'a fait devenir célèbre. Elle raconte, alors c'est bien écrit, hein, c'est un très palpitant, elle raconte les dangers de son expédition, la manière dont l'occidentale qu'elle était a dû, sous son déguisement, et ça c'est une particularité de beaucoup de femmes journalistes, de pratiquer le journalisme déguisé, un peu comme Nelly Bly aussi. Donc sous son déguisement pouilleux, elle a dû adopter les règles tibétaines, faire ses besoins en public, manger des viscères, etc. Et elle se sert de ce feuilleton, en fait, pour financer à la fois ses déplacements ultérieurs et aussi pour se rendre célèbre, puisque elle, son objectif, en fait, c'était plutôt d'écrire des ouvrages quasiment scientifiques, produire une littérature savante d'ethnographe. Et elle y arrivait par le biais du journal.
Ah, il nous faut aussi parler, vous l'avez cité dès le début de cette émission, Marie-Ève Terenti, une journaliste qui était surnommée la princesse du journalisme à l'époque, André Violis.
Oui, alors elle...
Là, nous parlons du XXe siècle, hein, non ?
On est toujours dans le XXe siècle, oui, ouais. On est dans l'entre-deux-guerres. Elles sont en fait pratiquement contemporaines, mais pour moi, celle-là, André Violis, qui est peut-être la plus spectaculaire des journalistes dont je parle dans le livre, l'exact, je le disais, équivalente d'Albert Londres, elle fait partie des grandes reporters. À la différence de David-Nel, hein, qui est une exploratrice, qui s'est immergée, qui a habité longtemps au Tibet, les grandes reporters, elles sont des passantes, elles vont quelque part pour rendre compte d'un événement et elles n'ont pas vocation à s'implanter, en fait. Et dans l'entre-deux-guerres, elles vont courir, elles vont aller aux mêmes endroits que les hommes, en Russie dans les années 20, quand c'est intéressant d'aller en Russie communiste, dans la Russie communiste, en Espagne au moment de la guerre d'Espagne en 36, elles vont risquer leur vie comme les hommes, hein, et certaines vont en mourir, comme Gerda Taro. Et elles le font presque avec les mêmes moyens que les hommes. Elles font du reportage avionné, elles utilisent des Leica ou des Kodak pour illustrer leur reportage. Et donc, elles ont été toutes oubliées, même quand elles étaient aussi célèbres à leur époque que leurs homologues masculins. Alors, évidemment, André Violis, c'est le cas le plus frappant pour ça. Sa particularité, c'est de commencer à être grande reporter pour Le Petit Parisien à pratiquement 50 ans. Une fois ses enfants élevés, c'est déjà en 1927. Et à partir de là, c'est un feu d'artifice. Elle voyage en Russie, en Arménie, lors d'un tremblement de terre, en Inde où elle rencontre Gandhi, en Chine, au Japon. En 36, elle est en Espagne aux côtés des Républicains puisque c'est une journaliste de gauche très engagée. Et en 38, évidemment, elle est au cœur de l'Europe de l'Est au moment de l'Anschluss. Et en fait, elle est doublement extraordinaire et elle a apporté beaucoup, et c'est pour ça qu'il faut prononcer son nom. D'abord parce qu'elle va dénoncer dans un ouvrage Indochine et SOS, dans un livre, parce qu'elle peut pas le faire dans le journal, les exactions commises par la France en Indochine à la suite de son voyage en 1931, grâce à une enquête vraiment impartiale. Et aussi, là où aussi elle est très visionnaire, exactement comme Albert Londres au bagne, elle voit très tôt les dérapages des fascismes, à la fois au Japon et en Europe, et elle les dénonce aussi très tôt.
Une semaine d'actualité.
Marie-Ève Terenti, nous allons poursuivre notre conversation dans un instant, mais d'abord parlons cette fois de la situation politique en Ukraine. Après la réunion de Paris lundi dernier, qui rassemblait, on le sait, les présidents russes et ukrainiens, ainsi que le président français et la chancelière allemande, la question de la reconnaissance de la frontière orientale du pays reste posée. Anastasia Becchio.
Les discussions au palais de l'Élysée ont duré 4h30 de plus que prévu initialement. La conférence de presse finale s'est achevée après minuit, et pourtant aucune avancée n'a été actée sur le volet politique des accords de Minsk, comme le regrette le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Pour moi, je le dis honnêtement, le résultat de cette première rencontre, c'est très peu. Je voudrais résoudre un plus grand nombre de problèmes. Nous avons avec le président russe des divergences complètes sur la frontière. Je soulève cette question. Je souhaite que la frontière repasse sous contrôle ukrainien avant les élections locales.
Assis à l'autre extrémité de la table, à côté d'Emmanuel Macron, Vladimir Poutine répond invariablement qu'il n'y a pas d'alternative aux accords de Minsk, qui sont très clairs sur ce point. L'Ukraine récupère le contrôle de sa frontière orientale au lendemain des élections. De l'autre côté du président français, la chancelière allemande affiche un optimisme mesuré.
Je le dis ouvertement, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais j'ai l'impression, après cette rencontre, qu'il y a de la bonne volonté pour résoudre des questions difficiles.
Les quatre dirigeants se sont donné rendez-vous dans 4 mois. D'ici là, leurs équipes vont tenter de rapprocher des positions aujourd'hui irréconciliables.
Partons en Russie voisine maintenant, avec une interdiction pour les athlètes de ce pays de se présenter à de grandes compétitions ces prochaines années. Ainsi en a décidé l'Agence mondiale antidopage à Moscou mardi. Les explications de Daniel Valo.
Une fois de plus, la Russie est sanctionnée pour avoir tenté de protéger certains de ses sportifs. Et une fois de plus, ses dirigeants refusent de reconnaître leurs responsabilités et dénoncent un complot destiné à l'humilier. C'est cet argument qu'a avancé hier après-midi le Premier ministre russe Dmitri Medvedev.
Il est évident qu'il y a encore du dopage en Russie. Mais d'un autre côté, ces décisions se répètent contre des sportifs qui ont déjà été punis. Et l'on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est la conséquence de cette hystérie anti-russe qui est devenue chronique.
Seule voie en Russie à reconnaître la réalité des manipulations, celle du patron de Roussada, l'agence antidopage russe. Yuri Ganous demande aux autorités de son pays de reconnaître les faits et d'ouvrir une enquête.
Il y a eu des manipulations et une partie des données a été supprimée juste avant leur transmission à l'Agence mondiale antidopage. Il faut se demander qui a été mêlé à cela. Nous avons un président et nous attendons de lui que des mesures concrètes soient prises.
C'est maintenant à l'Agence antidopage russe de décider si elle fera appel ou non de ces nouvelles sanctions. Mais Yuri Ganous s'est montré d'ores et déjà pessimiste quant à la possibilité de voir le tribunal arbitral du sport annuler les sanctions décidées ce lundi.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Marie-Ève Terenti, et nous continuons à parler des pionnières, des femmes journalistes qui ont marqué la profession en France, mais dont la plupart ont disparu des mémoires et même des livres d'histoire. Et si nous parlions, Marie-Ève, de Simone Théry, on parlait à l'instant de la Russie, ça me fait penser aussi à l'URSS, au Parti communiste. Simone Théry, voilà une journaliste engagée.
Ah oui, très engagée. Alors, sa spécificité, quand même, c'est d'être la fille de la précédente, la fille d'André Violis. Elle est aussi la fille de Gustave Théry, le directeur du journal L'Œuvre. Elle baigne en fait dans le journalisme très tôt, sans doute. Et donc, c'est assez exceptionnel. Hein. Elle se retrouve sur les routes, effectivement, puisqu'elle est grande reporter comme sa mère. Dans les années 30, à la fin des années 30, elle est reporter pour L'Humanité. Elle se retrouve sur les routes en même temps que sa mère, donc sa mère déjà un peu plus vieille. Hein. Et elle se croise en Asie, en Espagne, etc. Alors, la spécificité de Simone Théry, c'est d'être agrégée de lettres. Alors, c'est à la fois une spécificité, parce que c'est évidemment un haut niveau d'études, mais aussi, ça renvoie à une réalité. Ces femmes journalistes de l'entre-deux-guerres, elles sont en général beaucoup plus diplômées que les hommes, et elles parlent aussi souvent beaucoup de langues, ce que ne font pas les hommes. Enfin, notamment, Simone Théry, elle parle anglais parfaitement. Alors, elle gagne une bourse très tôt et elle va faire la bourse Albert Kahn. Elle va faire le tour du monde. Dans un premier temps, elle en fera un livre et puis ensuite, elle va faire des reportages en Irlande, en Chine, en Espagne, en Allemagne. Des reportages effectivement très engagés. Mais à partir de 1935, en fait, et ensuite avec la guerre d'Espagne, l'ensemble de la presse se radicalise et les femmes journalistes aussi. En fait, on sait toutes de quel bord elles sont. Sa spécificité aussi, c'est d'avoir une existence assez libre. C'est la maîtresse, entre autres, de Giono et de Nizan. C'est à la fois une spécificité pour l'époque, mais pas tant que ça pour les journalistes qui ont souvent des vies beaucoup plus libres que la moyenne des femmes de cette époque.
Il faut préciser, Marie-Ève Terenti, que cette époque des années 20-30, pour ne parler que de cette époque-là, est une époque où les reportages se développent considérablement dans ce que l'on appelle la grande presse.
Oui, Paris Soir ou Le Petit Parisien, à partir des années 30, en fait, embauchent les plus grands noms, Albert Londres, Joseph Kessel, alors là c'est au matin, pour faire des reportage à sensation. Et on peut dire que le grand reportage, je pense par exemple, bon, soit au reportage sur le bagne d'Albert Londres en 1923, mais aussi par exemple au reportage de Joseph Kessel sur la traite des esclaves en 1930 pour Le Matin. Les reportages sont des produits d'appel énormes pour le public. En fait, ça relaie en quelque sorte le roman feuilleton du 19e siècle. Ce sont souvent des articles qui font la une. Et donc les reporters, ce sont les stars de l'époque. Ils ont des salaires d'ailleurs qui sont pas du tout comparables aux journalistes qui tiennent d'autres rubriques. Bon, alors pour la star des stars, par exemple, Albert Londres, c'est 5000 francs par mois. Bon, une journaliste, une femme journaliste lambda, elle gagne 1500 francs par mois. Et André Violis, 3000 francs par mois. Pour revenir juste sur peut-être Simone Théry et sur sa spécificité, c'est qu'elle met en scène la parole de l'autre, la parole des anonymes, la parole des pauvres. Et notamment, elle fait des reportages magnifiques, notamment en Espagne, aux côtés des républicains. Et elle va tirer aussi, un peu comme Kessel d'ailleurs, de ses grands reportages, des romans. Elle va aussi être célèbre à son époque pour les romans, des romans qui sont des fictionnalisations de ses reportages. Par exemple, La Porte du Soleil pour La Guerre d'Espagne, qui est un très beau roman sur la guerre d'Espagne, et qui est un roman engagé évidemment, mais qui là aussi a disparu cette fois de l'histoire littéraire.
Vous publiez, c'est à la page 314 pour être exact, Marie-Ève Terenti, dans votre livre, le facsimilé de la une d'un journal qui s'appelait Grand Journal de l'époque, qui s'appelait Ce Soir, une du 28 juillet 1937, qui annonce le décès, la mort d'une des reporters de ce journal, en l'occurrence Gerda Tarot, dont vous avez cité le nom tout à l'heure. Elle était photographe.
Oui, alors, elles sont souvent photographes. J'aime bien cette une parce qu'il y a une sorte de hiatus entre le titre, Mademoiselle Tarot a été tuée près de Brunette, donc pas dans la guerre d'Espagne, et la photo où elle est là, hilare. C'est une photographie souriante. Ouais. Enfin, il y a vraiment un phénomène de distance entre l'illustration et le reportage. Gerda Tarot, elle vient. C'est la première femme reporter touchée mortellement dans un combat le 25 juillet.
Pendant la guerre d'Espagne.
La guerre d'Espagne. Alors, elle vient d'Europe de l'Est, hein. Elle vient de la bonne bourgeoisie juive de Stuttgart, elle est de nationalité polonaise. Elle arrive à Paris en 1933, où elle va mener une vie de bohème, et elle va rencontrer à ce moment-là un jeune reporter, et André, qui à l'époque s'appelle André Friedman, et elle va devenir sa compagne, et ensemble ils vont créer une sorte de reporter américain fictif qu'on connaît bien dans le milieu du reportage photographique, c'est Robert Capa. Ils vont faire ensemble beaucoup de reportages. Alors chacun étant en fait photographe et bon évidemment à sa mort il y aura une sorte là aussi de d'occultation de l'œuvre de Gerda Taro puisque la plupart des clichés en fait ont été publiés sous le nom de Kappa.
Donc il faut retenir aussi ce nom Gerda Taro, victime elle dans l'exercice de son métier.
C'est ça. Alors, il faut aussi noter que beaucoup, d'ailleurs, des femmes journalistes que j'étudie se promènent avec un Leica ou un Kodak sur les champs de bataille. Ce qui, là aussi, en fait une spécificité par rapport aux hommes qui sont un peu plus réticents. Je parle des reporters journalistes à être aussi reporters photographes. Alors que, bon, quelqu'un comme, par exemple, comme Tita Ina, alors elle fera des films, ou Ella Maillard fera des films aussi. Terry, elle sera munie d'un photographe et elles illustrent elles-mêmes. Leur reportage, ce que ne font pas en général les hommes. Souvent, les deux professions, reporter, photographe et reporter, sont distinctes chez les hommes.
L'actualité en France, maintenant, Marie-Ève Terranti, est d'abord sur fond de grève dans les transports publics, notamment SNCF et RATP. La présentation mercredi par Édouard Philippe, le Premier ministre, de la réforme annoncée des retraites. Voici un résumé de ce projet de loi avec Pauline Glaise.
Comme prévu, Édouard Philippe a signé la fonte des 42 régimes actuels en un seul système universel à points. Le Premier ministre a essayé de rassurer sur le montant des pensions. Il a confirmé qu'un minimum de 1000 euros, puis à terme de 85% du SMIC, serait garanti. Le niveau de pension des enseignants qui serait lésé par le nouveau mode de calcul sera sanctuarisé et la valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux sous le contrôle du Parlement. Le gouvernement avait aussi beaucoup communiqué sur une réforme censée être bénéfique pour les femmes, un point très contesté. Alors l'exécutif octroie une majoration supplémentaire pour les parents de familles nombreuses. Quant à l'épineuse question de la transition, pas de clause du grand-père, mais l'entrée en vigueur sera plus longue que prévu. Sont concernés ceux qui peuvent partir à la retraite en 2037, donc ce n'est à partir de 1975 pour le régime général, 1985 pour un cheminot. Mais attention, le gouvernement touche également à l'âge de départ. Certes, l'âge légal restera fixé à 62 ans, mais sera instauré un âge d'équilibre à 64 ans, autour duquel sera appliquer un système de bonus-malus et cet aspect de la réforme entrera en vigueur dès 2027.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet gouvernemental a mécontenté les syndicats. Il a même recréé un front syndical uni avec la CFDT, très hostile à cette notion d'âge pivot à 64 ans. Écoutez son secrétaire général Laurent Berger, mercredi soir sur France 2.
Ce qui nous a mis en colère, c'est que le gouvernement a fait une réforme qu'on qualifie de paramétrique, c'est-à-dire qu'il a demandé dès 2022 aux gens, aux travailleurs, de travailler plus. La CFDT, elle est contre cette mesure d'économie. Parce que les efforts avaient été faits dans les réformes précédentes. Aujourd'hui, c'était le temps de la justice et de l'égalité. Et donc, nous ne sommes pas des observateurs entre, d'un côté, les élateurs du statu quo et du rien ne change parce que le système serait parfait, et de l'autre côté, cette espèce de technocratie de comptable qui ferait qu'on considérerait les travailleurs comme des paramètres. Donc, la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
Les enseignants, notamment, sont également très remontés contre cette réforme. Ils ont manifesté jeudi à Paris, notamment. Reportage d'Aram Beng.
Plusieurs professions étaient représentées à cette manifestation entre la place de la Nation et la place de la République. Dans le cortège, beaucoup d'enseignants en colère après les annonces du Premier ministre. Silver, professeur de 43 ans, dénonce une stratégie du gouvernement pour diviser les syndicats.
Je trouve scandaleux, par exemple, qu'il annonce que le nouveau régime va concerner uniquement les gens qui sont nés après 75. Je pense qu'il est, ce qu'il essaie de faire, c'est de diviser le front syndical. Et je crois que ça va avoir l'effet contraire. Donc on reste très motivés pour qu'ils retirent cette réforme.
Après plus de 40 ans dans l'enseignement, Bruno vient juste de prendre sa retraite. Il a tenu à manifester par solidarité avec ses anciens collègues.
Je sais qu'avec la réforme qui est prévue, qui a été annoncée, c'est pour mes collègues, avec la même carrière que moi, ils vont gagner 600 ou 800 euros de moins que moi quand ils seront à la retraite.
Les enseignants qui affirment avoir beaucoup à perdre avec la réforme des retraites sont déterminés à continuer la grève jusqu'au retrait de cette réforme. Ils seront encore dans la rue le 17 décembre prochain lors d'une journée de mobilisation interprofessionnelle.
Retrait, retrait,
Il faut préciser également qu'il y a en ce moment des négociations entre le gouvernement et les enseignants et qu'il y aura une nouvelle journée d'action donc mardi prochain. Marie-Ève Terenti, vous souhaitiez commenter cette réforme, peut-être pas commenter, mais dire un mot sur ce projet de réforme.
Oui, enfin, je précise immédiatement que je suis enseignante. Hein. J'ai trouvé que c'était un...
Donc vous êtes directement concernée par la question.
Oui, disons que sur le fond, donc en tant que littéraire, j'ai trouvé que c'était un discours bien performé, bien écrit, plein de sophismes, d'astuces rhétoriques, de trouvailles lexicales. Par exemple, j'ai apprécié le passage de la notion d'âge pivot à la notion d'âge d'équilibre. Je trouve que le terme est mieux choisi, c'est joli, ça fait raisonnable, âge d'équilibre. J'ai apprécié aussi la construction avec une introduction pleine de promesses, de formules générales, d'appels au contrat social, d'appels à la confiance et puis une deuxième partie finalement beaucoup plus technocrate.
En tout cas, je vous remercie pour ce commentaire littéraire, car cela manquait aux commentaires sur les décisions prises par le gouvernement et annoncées par Édouard Philippe.
C'est vrai, c'est la preuve. Je pense que c'est une première. Mais sur le fond, en fait, je trouve quand même qu'il y a peu de données chiffrées, peu de garanties, et finalement, il y a juste cet appel à la confiance, et ce qui fait peut-être de ce discours un peu anachronique, un peu décalé par rapport à la situation du pays. En fait, on pourrait dire que le temps de la confiance et des promesses, le temps du blanc-seing, en quelque sorte, c'était 2017. C'était le temps de la campagne, quand Macron, d'ailleurs, promettait de ne pas remettre en cause la retraite à 62 ans, ce qu'Édouard Philippe a finalement fait dans son discours. Et donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de confiance. D'abord parce que les Français ont vu un certain nombre de réformes se déployer, comme celle sur l'assurance chômage. Ensuite, parce que tous les indicateurs montrent que les réformes Macron bénéficient essentiellement aux plus riches. Et surtout, sans doute parce que cette crise, c'est essentiellement une crise de la confiance qui va bien au-delà du régime des retraites et notamment bien au-delà, comme vos reportages l'ont rappelé, des régimes spéciaux. Ce n'est pas seulement les cheminots, mais c'est aussi les professeurs, les policiers aussi qui sont dans la rue. Donc je pense, pour conclure, que faire appel à la confiance d'une part et tenter de cumuler en même temps, comme la CFDT le disait, réformes paramétriques et réformes systémiques, c'est soit très maladroit, soit peut-être très tactique.
Alors revenons aux journalistes, nous continuons à parcourir. C'était intéressant de vous entendre parler de cette réforme en tant qu'enseignante et en tant que citoyenne, tout simplement, Marie-Ève Terenti. Nous allons continuer à parcourir la galerie de portraits que vous analysez dans votre livre « Femmes de presse, femmes de lettres ». Et justement, à propos de ces femmes de lettres, tout est lié, femmes de lettres, femmes de presse, et on pense immédiatement à Georges Sand et à Colette, quand on dit ça, femmes
oui,
de presse, femmes de
vrai,
lettres.
Mon livre parle aussi, mais aussi en scène des grandes écrivaines, enfin nos grandes écrivaines, d'abord parce que la majorité des écrivaines, comme les hommes là, en fait, c'est pas un partage genré. En fait, les hommes journalistes étaient souvent aussi, ou en tout cas nos grands écrivains étaient aussi des journalistes au 19e et au 20e siècle. Donc la majorité des écrivaines, comme les hommes, sont passées par le journal. Dans mon livre, effectivement, je parle de Sand, de Colette, de Duras, de Sagan. Et en fait, toutes ces femmes, en quelque sorte, et peut-être ça je ne l'ai pas encore assez souligné, elles utilisent des procédés littéraires pour entrer dans le journal. Alors notamment, elles entrent souvent dans le journal par la fiction, parce que c'est ce qui leur est autorisé. Et ensuite, même pour faire leurs articles, très souvent, elles vont utiliser les romancer, enfin les rendre plus lyriques, les dramatiser, en quelque sorte les littérariser, pour finalement s'introduire dans le journal en tant que femme de lettres, pour trouver une place dans le journal. Et parmi toutes celles-là, oui, c'est vrai que Colette tranche avec les autres. On l'a mise d'ailleurs, enfin je l'ai mise avec mon éditeur sur la couverture du livre. Colette, c'est une énorme journaliste en fait. Et ça, c'est vrai qu'on le sait pas assez, on l'a pas assez répété. Je suis sûre que les deux tiers en fait de ces livres sont parus, au moins les deux tiers de ces livres sont parus d'abord dans la presse. Elle a tout fait dans le journal, sauf l'article politique. Elle a été directrice littéraire au Matin, elle a été chroniqueuse sportive, elle a suivi dès 1912 un Tour de France. Elle a été chroniqueuse judiciaire, elle a suivi par exemple les procès de Landru et de Violette Nozière. Elle a été critique dramatique pendant des années, critique cinématographique aussi très tôt, en 1917. Elle a fait beaucoup de chroniques de mode et aussi pas mal de reportages. Alors, elle a pas mal de spécificités. D'abord, elle a su créer une forme de réseau, en fait. Elle a beaucoup aidé d'autres femmes journalistes. Et ça, c'est important de le souligner à un moment où, pour les femmes journalistes, c'est difficile de s'appuyer sur les mêmes sociabilités que les hommes. Elles n'ont pas accès ou difficilement accès aux syndicats. Elles rentrent difficilement dans les associations de journalistes. La maison des journalistes aussi, à Paris, l'aurait longtemps fermée. Et quelqu'un comme Colette, qui a une position assez stratégique au Matin, qui connaît tout le monde, va aider d'autres femmes journalistes comme Annie Depen, Marie Choisy, Germaine Beaumont. Donc elle crée, enfin, se crée en interne un réseau de l'amitié qui va aider les femmes journalistes de cette époque. Une autre de ses spécificités, c'est d'avoir cultivé une forme de sensationnalisme, comme beaucoup d'autres, hein, aussi dans celles que j'ai appelées les rédactrices professionnelles, qui souvent appuient aussi leur participation au journal à une mise en scène. Donc elles font la une des journaux, etc. Elles ont d'ailleurs très souvent, c'est un peu ambigu, hein, cette visibilité des femmes journalistes, parce qu'elles ont mauvaise réputation à cause, je l'ai dit tout à l'heure, de leur vie libre. Elles sont facilement assimilées à des prostituées. On les traite de lesbiennes. Colette, d'ailleurs, n'avait pas caché sa liaison avec Missy. Elle a cultivé le sensationnalisme, elle a posé nue, etc., dans les journaux. Donc, elle a joué de son nom, vraiment, comme d'une marque, pour s'introduire dans toute la presse. Hein. Elle a été à Paris Soir, elle a participé au lancement de Marie-Claire. Elle a été vraiment dans tous les journaux. Alors, une autre, enfin, de ses spécificités par rapport à une André Violis, dont elle est bien loin, en fait, même politiquement, hein, c'est qu'elle a très clairement évolué à rebours de ce que je montre dans le livre. Dans le livre, quand même, globalement, on passe d'un régime de la chronique, ce qui est permis aux femmes du 19e siècle, à une libération qui passe par l'accès des femmes au reportage. Eh bien, Colette, en fait, elle a fait le chemin inverse. Elle a été d'abord reporter, par raison, à la Belle Époque, parce que c'était comme ça qu'on entrait quand on était femme dans le journal. Donc, elle a rendu compte de voyages en ballon, par exemple. Elle a suivi l'arrestation de la bande à Bonneau. Elle est montée dans un train en marche pour interviewer la reine de Roumanie. Elle est allée, pendant la Première Guerre mondiale, en Italie, pour faire toute une série d'interviews. Et petit à petit, en fait, elle va renoncer au voyage, renoncer au reportage pour redevenir chroniqueuse. Elle va se trouver, en fait, toute une série de sinécures, et pour finalement écrire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire une forme de lyrisme du quotidien, en fait, une sorte de poétisation de l'observation de la vie de tous les jours sous une forme de chronique. C'est aussi d'ailleurs, enfin, peut-être la seule qui a réussi à convertir son œuvre de journaliste en œuvre littéraire, hein, de toutes celles que je dépeins. La plupart ont disparu, même quand elles ont publié des romans ou des livres en librairie. C'est la seule qui est restée, finalement, de cette époque-là, très célèbre.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Un salut, comme chaque samedi, à quelques auditeurs qui écoutent cette émission en Afrique et des fidèles en quelque sorte. Bonjour à Josué, à Bamako, à Emma, à Antananarivo, à Madagascar. Bonjour à Sama, à Lomé, à Mireille qui nous écoute à Lubumbashi, à Gabvorné, à Pala au Tchad et à Oumar à Boké en Guinée.
Sept jours en Afrique.
Direction l'Afrique maintenant, Marie-Ève Terranti, et d'abord évidemment le Niger. Avec cette attaque meurtrière contre le poste d'Inates à la frontière avec le Mali, c'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste il y a 5 ans, plus de 70 victimes. Elle a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Les explications mercredi de Moussa Kaka à Niamey.
L'attaque de la garnison d'Inates est la plus meurtrière depuis le début de l'insécurité sur la bande frontalière avec le Mali. Les assaillants lourdement armés, estimés à plusieurs centaines à bord de colonnes de véhicules dont des blindés et des motos, ont infligé de lourdes pertes aux soldats nigériens en les surprenant. Dans leur tentative d'encerclement de la garnison, les points névralgiques, à savoir le centre de transmission et la poudrière, ont été détruits dès les premières heures de l'attaque. C'est coupé de toute communication avec l'extérieur et de leurs réserves de munitions, que les soldats nigériens se sont battus vaille que vaille contre l'ennemi. En l'espace de 6 mois, c'est la seconde fois qu'Inates a été attaqué. Cette bourgade nigérienne est non loin du couloir de passage des grands narcotrafiquants et des terroristes du gourmand malien à la frontière sud de l'Algérie et de la Libye. Au vu des moyens mobilisés par les djihadistes et surtout de la stratégie utilisée pour attaquer la garnison d'Inates, nombreux sont les observateurs qui pensent que seul le groupe dirigé par Iyad Agali pourrait monter une telle opération. Que cherchent ces terroristes en multipliant les attaques contre les positions de l'armée nigérienne? Cette attaque d'Inates intervient quelques jours seulement après la remise par les États-Unis d'Amérique d'un important lot de matériel militaire au Niger et surtout aussi à une semaine de festivités de la proclamation de la République à Tillabéri, la zone endeuillée.
À suivre, bien sûr, dans nos rendez-vous d'information, un deuil de 3 jours a été décrété dans le pays. L'élection présidentielle en Algérie, on vous en parle également dans nos journaux. Les électeurs avaient à choisir 5 candidats jeudi, dont 4 sont des anciens collaborateurs d'Abdelaziz Bouteflika. Une farce pour beaucoup d'Algériens qui, à la veille du scrutin, mardi exactement, ont une nouvelle fois manifesté leur colère à Alger. Leïla Berato.
Dans la capitale, la mobilisation hebdomadaire du mardi était en hausse, malgré un déploiement de forces de l'ordre inédit. Dans le cortège, les manifestants, des étudiants, mais pas seulement, scandaient qu'ils ne voteraient pas et qu'ils souhaitaient un état civil, pas militaire. Il y a eu des manifestations dans 19 régions. À Annaba, à l'est du pays, plusieurs étudiants et enseignants ont été interpellés. À Sidi Bel Abbès, des personnes ont été blessées dans des affrontements avec des forces de l'ordre. Mais au-delà des manifestations étudiantes depuis plusieurs jours, des cortèges se forment aussi en fin de journée pour protester contre l'organisation du scrutin. C'est le cas à Oran, à l'ouest du pays. Ce mardi, cependant, un important dispositif de sécurité a empêché la manifestation. Les protestataires ont été sommés de quitter les lieux et il y a eu des arrestations.
Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Ève Terranti, je précise, mais vous le savez, puisque vous écoutez les journaux de RFI, que l'élection a été gagnée par Abdelmadjid Tebboune, qui est un ancien ministre et premier ministre éphémère d'Abdelaziz Bouteflika. 58,15% des voix, c'est son résultat, mais une participation à cette élection d'à peine 40%. Vous voulez dire un mot, Marie-Ève Terranti, sur cette élection, sur le processus électoral, entre guillemets, en Algérie?
Oui, sans doute. Enfin, je pense qu'on est là encore avec cette révolution du sourire devant un énorme paradoxe, hein, puisque être démocrate aujourd'hui en Algérie, c'est sans doute refuser d'aller voter, ou c'était refuser d'aller voter, refuser d'accréditer ce qui paraît être, pour un observateur extérieur, un simulacre de démocratie. Alors, je me souviens par exemple avoir regardé avec assez d'étonnement, en tant que spécialiste de la presse et des médias, le débat télévisé qui a opposé les 5 candidats. C'était un grand show télévisuel autour des candidats qu'on voyait, tous hommes, tous de l'ancien monde, tous habillés de la même façon, tous en quelque sorte clones émanés du régime de Bouteflika. Il y avait vraiment une image là, très sidérante, hein, la première image où ils étaient quasiment, on pouvait pas les distinguer.
Continuons notre voyage, Marie-Ève Terranti, avec l'ouverture lundi du procès du fils de l'ancien président angolais Dos Santos, José Filomeno, et de 3 complices pour détournement. C'est la première fois qu'un membre du clan Dos Santos, dont nous avons parlé il y a quelques mois avec notre invité Estelle Motion, d'un membre de cette famille qui a régné sur l'Angola est jugé. C'est une première, Florence Maurice.
Un fils de l'ex-président Dos Santos, jugé par le tribunal suprême de la capitale angolaise, l'image est inédite. À ses côtés dans le box des accusés, 3 complices présumés, parmi lesquels l'ex-gouverneur de la Banque centrale du pays, Walter Felipe da Silva. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars depuis la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse, dans le cadre d'une vaste opération de fraude qui aurait permis de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars selon le parquet général. L'acte d'accusation les soupçonne d'avoir voulu, je cite, s'enrichir personnellement avec l'argent de l'État, et explique que cette tentative d'escroquerie aurait été maquillée en un plan qui devait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement. Fait marquant de cette première audience, l'avocat de l'ex-gouverneur de la Banque centrale a créé la surprise en demandant à ce que l'ex-président Dos Santos soit auditionné comme témoin au cours de ce procès, en expliquant que son client avait agi par obéissance à sa hiérarchie. Lui et Filomeno Dos Santos avaient été nommés à leur poste par l'ex-président, puis limogé par le nouveau João Lorenzo, qui depuis sa prise de fonction a évincé la plupart des proches de son prédécesseur placés à des postes clés au nom de la lutte contre la corruption.
À noter aussi dans l'actualité africaine, une nouvelle journée de manifestation mardi en Guinée à l'appel du FNDC contre l'éventualité d'un troisième mandat du président. Une semaine d'actualité, il nous reste quelques petites minutes, Marie-Ève Terranti, pour conclure cette émission. Je voudrais qu'on parle par exemple d'Isabelle Eberhardt. Beaucoup de ces femmes journalistes ont travaillé, ont suivi les soubresauts de la colonisation sur le continent africain.
Oui, c'est ça, le reportage colonial, c'est un reportage qui a été souvent pratiqué par les femmes, qui ont d'ailleurs un peu un statut ambigu quand elles sont dans les colonies. Elles doivent gérer une forme de tension entre leur appartenance à un monde européen, le monde de la colonie en fait, un monde censé être supérieur, et leur propre situation subalterne, y compris dans le journal. Alors Isabelle Eberhardt, c'est peut-être la première de ces reporters en colonie. Elle, c'est vraiment une figure très attachante, presque un mythe. Alors à la différence de Nell, elle est morte très jeune, à 27 ans, après une vie incroyable. Elle est la fille en fait d'un aristocrate russe, mais elle est sans père, et les filles naturelles sont d'ailleurs nombreuses parmi les journalistes, qui ont toutes, je l'ai déjà dit, un rapport de marginal à la société. Elle arrive à 18 ans en Afrique du Nord et elle va arpenter le Sahara et les quartiers indigènes des grandes villes algériennes. Elle se convertit à l'islam, elle parle parfaitement l'arabe, elle voyage déguisée elle aussi sous le burnou et le turban sous le nom de Mahmoud Saadi. Et dès le début, elle écrit des journaliers, des prises de notes assez lyriques qu'elle envoie dans les journaux à la métropole, et elle se fait une petite célébrité comme ça. En fait, sa personne, son caractère très libre, son travestissement font scandale, et elle est victime d'une tentative d'assassinat, elle est accusée par les autorités militaires d'être une espionne, elle est même un temps extradée d'Algérie. Et en fait, après, elle va avoir l'autorisation de rentrer, d'épouser le spahi qu'elle aime. Et elle va rencontrer à ce moment-là Victor Baroukan, qui est un grand journaliste qui dirige l'Akbar, le plus ancien journal de la colonie. Et lui va saisir, en fait, le parti qu'il peut tirer de cette figure androgyne qui est prête à se mêler aux populations autochtones, et va l'expédier en 1903 dans le sud oranais, pour suivre pour son journal les troupes du maréchal Lyautey. Donc elle suit les auxiliaires indigènes, elle comprend aussi l'ambiguïté de ces combats, elle dort avec eux à la Belle Étoile, elle est admise comme l'un des leurs, elle écrit vraiment de magnifiques textes entre la frontière entre le reportage de guerre et le récit de voyage. Des textes qui décrivent la violence de la guerre, la description aussi de la misère sexuelle des soldats aussi. J'ai vu ça nulle part ailleurs, et pourtant j'ai lu beaucoup, beaucoup de reportages de guerre. Donc elle meurt en 1904 d'un accident en fait dans une crue, et elle va laisser une œuvre qui va être finalement très mal éditée, et elle aussi. Alors même si le mythe reste, et la plupart des femmes journalistes vont se reconnaître, vont en fait, un peu comme Séverine, ce sont deux femmes qui ont constitué des mythes et des modèles pour les femmes journalistes, elle reste quand même assez méconnue, sinon comme une sorte de légende. C'est un peu un Le Rimbaud, l'équivalent d'un Rimbaud, mais son œuvre n'est pas aussi connue que celle de Rimbaud.
Merci Marie-Ève Terranti. Il faut continuer à se promener dans la galerie de portraits que vous nous proposez en lisant votre livre qui est absolument passionnant, qui s'intitule « Femmes de presse, femmes de lettres » de Delphine de Girardin à Florence Aubenas. Le livre est publié au CNRS Éditions. Merci Marie-Ève Terranti.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Pauline Leduc et Vanessa Rovensky. Merci à France Bleu Touraine, à Tours et en particulier à Farzad Chagoli qui a assuré le duplex qui a permis cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées et nous nous poserons la question suivante. Les droits de l'homme rendent-ils idiots? Question provocatrice d'un livre qui est en réalité une défense des droits de l'homme. Livre écrit par Jean-Yves Prancher et Justine Lacroix. Justine Lacroix sera notre invitée, à ne pas manquer demain dimanche 17h10 heure de Paris. Et sur votre moteur de recherche préféré, sans oublier l'application gratuite RFI Pure Radio. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
Carrefour de l'Europe.